Bonjour à toutes et à tous, retrouvez votre émission L'Instant Nature, une émission proposée tous les 15 jours par l'Association pour la sauvegarde de l'environnement Caroly Pontoise. Cette émission est animée par Xavier.
Eh bien voilà, l'Instant Nature commence, débute. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité, merci d'écouter Radio Puisalène, L'Instant Nature avec Xavier. Bonjour.
Bonjour Edwige, bonjour à toutes et à tous, et ça y est, notre 16e émission de la saison 2024-2025. Alors on commence par des humeurs qui sont des points d'interrogation. Que penser de l'actualité ? L'écologie et l'environnement donnent lieu à de nombreuses controverses, on va encore le voir dans cette émission d'aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui minimisent les risques que court la planète aujourd'hui et fortes sont les tendances à revenir en arrière quant aux bonnes mesures pour la sauvegarde de notre maison commune. Et pourtant, nous devons tenir compte des avertissements des scientifiques qui ne disent pas n'importe quoi. Mais il faut que l'écologie, comme l'a affirmé avec force le précédent pape François il y a 10 ans maintenant, il faut que cette écologie soit globale et tiennent compte des plus démunis. On ne peut séparer la terre qui souffre et les hommes qui souffrent dans l'approche des solutions au dérèglement climatique et à la destruction de la biodiversité. Et c'est peut-être ce mépris des hommes qui souffrent face à la terre qui souffre qui provoque aujourd'hui cette espèce de chaos dans l'écologie. Alors, en dossier aujourd'hui, eh bien, on va finir par m'appeler Idéfix ici à Radio Puisalène, mais on va reparler du mégot. Alors pourquoi reparler du mégot ? Parce que le 24 mai dernier, un mégoton a été organisé par différentes associations en France. Ce mégoton, c'est la journée nationale du ramassage des mégots et de la sensibilisation à ses impacts environnementaux. C'était la 3e fois, si je ne me trompe, que c'était organisé. L'objectif étant de mobiliser les citoyens, les associations, les entreprises et les collectivités pour ramasser les mégots abandonnés dans nos espaces publics. Le mégoton permet de sensibiliser le public à l'importance de jeter son mégot à la poubelle et à l'impact de ce déchet sur notre planète. Et effectivement, on ne peut se taire et on ne peut que se répéter. Quelques rappels. 4300 milliards de mégots de cigarettes sont jetés au sol chaque année dans le monde, soit près de 12 milliards par jour. Pour la seule ville de Paris, ce sont chaque jour 10 millions de mégots abandonnés au sol et ça représente 350 tonnes de déchets ramassés par les équipes de nettoyage municipal. Ça a un coût, bien sûr, pour la collectivité et tous les contribuables parisiens payent pour ce nettoyage dont ils sont en grande partie pas responsables. Ce chiffre parisien ne prend pas en compte les mégots qui finissent leur course dans la Seine, dans les égouts ou dans la terre des espaces verts. Alors signalons qu'il y a un projet d'interdiction de fumée dans les jardins publics et apparemment l'opinion publique et notamment les plus jeunes ne sont pas contre. Hein, et effectivement, à ce moment-là, au moins, il n'y aurait plus de mégots dans les espaces verts publics. Oui. Rappelons d'ailleurs que jeter un mégot à terre, c'est jeter un déchet et que normalement, ça pourrait coûter 135 euros d'amende si les maires et les polices municipales faisaient leur boulot. Je ne vise personne, mais canoyons, on suive un peu mon regard. En France entière, le poids des mégots jetés ou écrasés par terre représente près de 25 000 tonnes de déchets par an. Sur les 40 milliards de cigarettes vendues chaque année en France, plus de 30 milliards de mégots ne finissent pas leur course dans un cendrier, mais directement dans la nature ou sur le sol des villes. Donc il faudrait vraiment, et je ne peux pas répéter ça 100 fois, mais je le ferai si nécessaire, il faut vraiment arrêter de jeter ces mégots ailleurs que dans un cendrier et les cendriers ailleurs que dans la poubelle. Alors, les mégots qui échouent sur nos plages, bon, on a vu l'autre jour qu'il y en avait un peu moins quand même, mais une grande partie ne provient pas directement des personnes fumant sur la plage. Bon, d'ailleurs, là aussi, sur les plages, ça va être interdit de fumer. Le ruissellement des eaux de pluie et les vents, parce qu'un mégot c'est léger et ça flotte, emporte d'abord les mégots dans les cours d'eau, dans les égouts, et ça en conduit un bon nombre jusqu'aux mers et océans. En 2024, il y a eu des efforts, mais les chiffres restent alarmants. On n'arrive pas à endiguer ce fléau, donc il faut poursuivre les efforts pour informer le public. La toxicité du déchet de cigarette, elle est portée par le mégot à filtre, notamment. C'est surtout lui qui est dangereux. Et pourquoi ? Bien, c'est sa composition qui est doublement nuisible à notre santé. Il s'est chargé d'un tas de saletés durant la combustion de la cigarette et ça nous donne parfois près de 4000 substances chimiques retrouvées dans les mégots filtres, notamment des métaux lourds, du barium, du plomb, du mercure, des hydrocarbures et des traces de pesticides utilisés dans l'industrie du tabac. Parce que là aussi, l'industrie du tabac elle-même pollue. Et le mégot lui-même, il n'est pas en coton. Il est fait dans une fibre plastique qui s'appelle de la viscose. Et quand il se dégrade, quand il s'altère, eh bien, c'est des particules de plastique de plus en plus petites, des microparticules, puis ensuite des nanoparticules. Donc des particules qui sont ingérées par les animaux et par les humains. Hein, nous ingérons tous les jours dans notre consommation, dans notre respiration, des microparticules de plastique. Certains disent même que ça correspondrait à l'équivalent du poids d'une carte bancaire. Bon, je n'ai pas vérifié, mais n'importe comment, la moindre particule de plastique dans notre organisme, ce n'est pas bon pour lui. Bon, la nicotine elle-même est néfaste à la faune marine et à la faune terrestre. Un mégot ne se dégrade qu'en 12 ans, mais par dégradation, il ne disparaît pas. À la limite, si on met un bout de papier par terre, il va se dégrader. Point final. Hein. Ce n'est pas propre, mais ce n'est pas une catastrophe. Mais le mégot, lui, il se dégrade, on vient de le dire, en petites particules. Hein. Alors, en plus, ce mégot à moitié décomposé, si les voitures et les piétons marchent dessus, il va se diffuser dans la nature de plus en plus vite. Les nettoyeurs souffleurs à haute pression qu'on emploie dans les villes vont disperser également les particules des mégots. Le vent et le ruissellement renforcent les choses. Le dégrillage des égouts, ça piège des déchets volumineux, mais pas les particules fines des mégots. Le mégot pollue à lui seul 500 litres d'eau. Et puis, on oublie une chose, le risque incendie. Dans les zones naturelles sensibles, notamment en été, 30% des départs de feu constatés dans les Bouches-du-Rhône, par exemple, sont imputés à des promeneurs qui éteignent mal leur mégot et à des automobilistes qui s'en débarrassent en le jetant par la fenêtre de leur voiture. Alors, tous ces renseignements se trouvent sur le site Cyclope, C-Y-Clope. J'ajouterai que le mégot peut provoquer des catastrophes. Il y a à Noyon un pressing dont l'activité est interrompue depuis des mois. Un mégot dans la poubelle du pressing a flanqué le feu au magasin et a empêché les exploitants de ce pressing de travailler correctement. Hein? Donc, le mégot, on l'éteint dans un cendrier. On peut avoir un cendrier de poche et tout ça dans la poubelle. Maintenant, le meilleur, cher fumeur, faites comme moi, il y a 45 ans, arrêtez de fumer. Et encore, je ne fumais pas beaucoup et pas des cigarettes à mégot. Ah, filtre, je veux dire. Mais arrêtez de fumer, je peux vous dire que ma respiration s'en porte beaucoup mieux. Ça va faire bientôt 45 ans que j'ai arrêté de fumer. Autant dire que je n'ai pas fumé trop longtemps dans mon existence. Alors, on passe à quelques brèves. Le glacier suisse de Blatten, mercredi 28 mai, c'est tout récent. Vous avez pu le voir à la télévision. Des millions de tonnes de glace et de roches se sont déversées dans le canton du Valais en Suisse, sur le village de Blatten, suite à l'éboulement d'un glacier voisin, le Birch. L'effondrement de ce géant de glace a détruit 90% des habitations du village. et donner naissance à un lac qui risque d'inonder une partie de la vallée. Un géomorphologue qui s'appelle Ludovic Ravanel estime que ce drame a un lien très fort avec le changement climatique. En effet, ce glacier qui était surveillé par les scientifiques depuis 1990 en raison d'une succession d'avalanches de glace. Eh bien, ce glacier pour lequel on avait évacué heureusement les habitants, il y a, je crois, un seul mort, hein, alors qu'il y avait un village entier. Ce glacier surveillé, son suivi a permis de mettre en évidence mi-mai le fait qu'une partie de la paroi rocheuse surplombant le glacier bougeait. Les grandes déstabilisations rocheuses observées sont très probablement dues à la dégradation du permafrost. Le permafrost, c'est ce sol gelé en permanence. On trouve ça dans les régions polaires, c'est-à-dire que même au dégel de l'été, sur quelques centimètres, tout ce qui est en dessous est gelé sur plusieurs mètres de profondeur. Et ça maintient les choses, notamment ça maintient les enrochements au-dessus des glaciers. Or, ces sols perpétuellement gelés, qui forment un ciment pour nos montagnes, sont mis à mal par le changement climatique. Des dizaines, voire des centaines de milliers de mètres cubes de roches se détachent ainsi de la paroi. À Börsch, une bonne partie s'est déposée sur le glacier. La surcharge étant phénoménale, eh bien, ça a accéléré la marche du glacier, parce que les glaciers sont vivants, ils avancent tout doucement, fondent un peu et alimentent en eau nos régions en aval. Eh bien, le glacier, il a tellement accéléré qu'il s'est effondré et il a emporté avec lui sa glace et les matériaux rocheux qui étaient dessus. Donc, réchauffement climatique, vous n'y croyez toujours pas. Ce sont des scientifiques, là, un géomorphologue, c'est un spécialiste des sols et, et des sous-sols et de leur évolution. Autre brève, la suppression des ZFE. Les députés ont voté la suppression des zones à faible émission qui excluaient les véhicules les plus polluants des routes et des rues dans une quarantaine d'agglomérations françaises. Ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi à l'Assemblée nationale. Alors, l'argument, c'est cette mesure touchait les plus pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir des voitures non polluantes. Mais si au lieu de supprimer ces mesures qui ont provoqué une amélioration très nette de la qualité de l'air dans ces villes, et nous savons que la mortalité à cause de la qualité de l'air est de plus en plus forte, tant il y a de particules fines et de saletés qui se promènent dans l'atmosphère. Au lieu d'aider les gens à changer de voiture, au lieu d'aider les gens à mieux vivre en se payant des voitures non polluantes, il est évident que cette mesure, elle handicapait les plus pauvres. Mais ce n'est pas supprimer la mesure qui est pour le bien de tous, et notamment des plus pauvres qui habitent souvent dans des quartiers très pollués, c'est en aidant tout le monde à avoir la voiture qu'il faut. On marche à l'envers, et là, bien que j'ai un devoir de réserve, je commence à m'énerver sur toute cette série de choses. Bref, feu de forêt au Canada, et on continue. Le Canada brûle de nouveau, on avait connu ça les précédentes années. Le pays, actuellement, connaît 175 feux de forêt actifs, dont 94, il y a deux jours, étaient encore hors de contrôle dans plusieurs provinces, le Manitoba, l'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta, etc. C'est le Centre interservice des feux de forêt du Canada qui décrit une activité des feux considérable. Dans le Manitoba, au centre du pays, plus de 17 000 personnes ont été évacuées mercredi. C'est l'un des pires débuts de saison des feux de forêt que peut connaître cette province du Canada. Et la plus importante opération d'évacuation au Manitoba de mémoire récente. Donc, réchauffement climatique, là encore. Sécheresse, chaleur, feu. Alors, dernier point de ces brèves qui ne sont pas très brèves, la loi Duplomb. Alors, qu'est-ce que la loi Duplomb ? C'est une proposition de loi émanant d'un sénateur qui visait à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Cette loi a été votée au Sénat et doit désormais, suite à un vote de l'Assemblée nationale, être débattu en commission paritaire mixte, c'est-à-dire par un groupe de sénateurs et de députés à nombre égal. Et elle sera représentée aux deux assemblées. Cette loi est soutenue par le principal syndicat d'agriculteurs, mais qui est un syndicat qui est le porte-parole essentiellement de la grosse agriculture intensive, celle qui génère le plus de pollution. Par contre, elle est fortement critiquée par des associations comme France Nature Environnement, qui nous dit « Présentée comme complémentaire à la loi d'orientation agricole, elle lisse un ensemble de régressions environnementales qui mettent en péril la santé humaine et celle des écosystèmes au bénéfice d'une agriculture industrielle à bout de souffle. Le soutien du gouvernement à ce texte est un très mauvais signal pour la transition agroécologique. » Fin de citation. Mais un autre syndicat agricole, la Confédération paysanne, qui, dans ses statuts, combat un modèle agricole qui conduit à la domination économique de quelques structures hyperproductives et hyperconcentrées, tout comme elle s'oppose, cette confédération agricole, à une vision de l'agriculture paysagère ou de loisirs, elle s'oppose à la loi Duplomb. C'est France Info qui le rapporte. Pour ce syndicat-là, ce texte va à l'encontre de l'intérêt général. Cette loi, disent ces paysans, est mortifère pour les paysans et les paysannes, explique Stéphane Gallet, l'un de ses porte-parole. En fait, elle ne lève pas des entraves qui seraient là pour empêcher le travail et le métier des paysans et des paysannes. Elle va lever des garde-fous qui limitent l'industrialisation de l'agriculture. Stéphane Gallet dénonce en particulier deux mesures. Celle pour introduire l'acétamipride, un pesticide protecteur pour certaines cultures mais nocif pour les abeilles. Et celle pour agrandir les élevages. C'est ça qui nous fait très peur, dit-il, parce que ça va accélérer la concentration des fermes et ça va accélérer la disparition des paysans et des paysannes dans les territoires. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un porte-parole d'un des syndicats agricoles. Et il ajoute, en autorisant par exemple les produits les plus toxiques, pesticides et autres, cela va aussi à l'encontre de notre santé. Donc, on a vu les deux points de vue, à vous de juger. Est-ce qu'il faut plutôt suivre l'un des syndicats qui est pour le retour à ces pratiques anciennes ou celui qui s'y oppose ? Ce n'est pas moi qui vous forcerai à choisir, mais réfléchissons un peu. Eh bien, Georg Frédéric Händel, ou Georg Friedrich Händel, va avec son concerto grosso en si bémol majeur, opus 6, deuxième mouvement Allegro, nous réconcilier un peu avec ce monde qui nous rend fous. Thank you. Eh bien... Eh bien, voilà de la musique qui a plus de 200 ans, mais c'est vif, c'est allègre, si je puis dire. Et Handel, c'est un musicien d'origine allemande qui s'est installé en Angleterre. Et donc, il est à cheval sur la fin du XVIIe et début du XVIIIe siècle. Et il a fait notamment de célèbres musiques pour les feux d'artifice du roi et les jeux d'eau du roi, les water music. C'est de la bonne musique baroque. On n'est pas encore totalement dans la musique classique, on est encore dans la musique baroque. Et puis il est célèbre aussi par un oratorio, le Messie de Handel, qui est très célèbre et très souvent joué encore dans les concerts classiques aujourd'hui. Donc voilà, ça nous change un peu du tabac.
c'est très joli.
On va reprendre sur quelques brèves mais très rapides là. Dire deux mots de la crise du bio. Bon, apparemment toutes ces dernières années, la consommation des produits bio jugés trop chers était en recul. Il semblerait que ça redémarre un petit peu. Mais l'Agence du bio, qui est un organisme d'État chargé du développement et de la promotion des produits bio, se voit cette année dans les projets budgétaires amputée de 15 millions d'euros, budget qui était dédié à la communication et au soutien de projets bio. Là encore, on revient en arrière, alors qu'il faut tout faire pour encourager le bio et surtout veiller à ce qu'il ne soit pas trop cher pour n'importe quel consommateur. Alors, ce n'est pas à nous de parler de la guerre à Gaza et de ses impacts humains et humanitaires, mais en tant que, j'allais dire spécialiste, bien petit spécialiste de la nature, etc., il faut dire deux mots du coût climatique de la guerre à Gaza. On trouve des informations sur un site qui s'appelle Report Terre, Terre T-E-2-R-E, et il révèle une étude du Guardian, qui est un journal anglais. Selon le Guardian, l'empreinte carbone des 15 premiers mois de la guerre d'Israël contre Gaza serait plus importante que les émissions annuelles de gaz à effet de serre d'une centaine de pays. De quoi exacerber l'urgence climatique mondiale, en plus de l'énorme nombre de victimes civiles, souligne le journal. Selon cette étude, qui fait actuellement l'objet d'une évaluation par des pairs pour la revue One Earth, le coût climatique à long terme de la destruction, du déblaiement et de la reconstruction de Gaza pourrait atteindre 31 millions de tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone. Les chercheurs estiment que le coût climatique à long terme de cette guerre et des affrontements israéliens annexes avec le Yémen, l'Iran et le Liban équivaudrait à charger 2,6 milliards de smartphones ou à faire fonctionner 84 centrales électriques au gaz pendant un an. Donc, politiquement, on n'en parlera pas, mais sur le plan écologique, c'est aussi une catastrophe. Et puis, ça s'en va et ça revient, si je puis dire. L'autoroute A69, très controversée, avait vu son chantier interdit par une décision du tribunal administratif. La cour administrative d'appel de Toulouse a de nouveau autorisé le chantier. Jusqu'à ce que le Conseil d'État revienne sur la question, était-ce bien utile ou une fois de plus, est-ce qu'il n'aurait pas fallu développer les transports en commun plutôt que de faire une autoroute de plus? Question, re-question. Nous aurons aujourd'hui posé peut-être trop de questions au risque de lasser nos auditeurs. Alors on va passer au conseil de la semaine avec un petit clin d'œil aux fumeurs. Chers amis fumeurs, et si vous arrêtiez de fumer et vous consacriez les économies ainsi faites à soutenir la filière bio, hein ? Un paquet de cigarettes, je ne sais pas combien ça coûte, mais si c'est 10 euros, eh ben, vous fumez plus ce paquet et vous mettez 10 euros dans un achat de nourriture bio. Ça sera doublement bon pour votre santé. Ceci dit, préférez des produits locaux issus d'une agriculture raisonnée à du bio venu de l'autre bout du monde, on ne sait dans quelles conditions. Les agriculteurs raisonnés, c'est des gens qui vont au minimum sur les intrants dans leur culture, sur les traitements. Ils se rapprochent énormément de l'agriculture bio, sans aller tout à fait jusqu'au bout. Mais leurs produits ne vous empoisonneront pas comme d'autres produits. Et j'ai des doutes, je me permets de le dire, sur le bio venu de plusieurs milliers de kilomètres de chez nous, des choses qui viennent du Chili ou d'Argentine. Est-ce qu'on a des garanties d'abord que ça a bien été bio et que ce n'est pas un label fantaisiste? Et puis, les conditions de transport, ça n'a pas été cueilli de façon à ce que ça arrive frais chez nous. Ça a été mûri comment en cours de route, etc., etc. Et puis, n'oubliez pas, récupérer pour les arrosages du jardin l'eau de pluie pendant qu'il est encore temps. On en aura peut-être besoin cet été. Le changement climatique, je ramasse des fraises dans mon jardin depuis 15 jours. Il y a 50 ans, mes premières fraises, c'était la deuxième semaine de juin.
Elles sont en avance ou non? Elles sont...
Ben, elles sont terriblement en avance. Les groseilles. Je viens déjà de récolter 1 kilo de groseilles. D'habitude, les groseilles, c'était deuxième quinzaine de juin. Hein? Donc, il y a quand même quelque chose. Il y a une avance dans la production qui est étonnante. Il est certain qu'il y a un changement climatique. Alors, à lire, à voir, à écouter, à réécouter. Ben, allez voir le site https://reporter en un mot, mais terre écrit TERE.net. Ça peut vous agacer, mais allez voir, c'est plein d'informations intéressantes et il est bon, même si vous êtes climato-sceptique et pas certain des problèmes de la planète, allez vous confronter aux idées qui ne sont pas forcément les vôtres. Les émissions de France Inter, on en parle toujours, c'est CO2 Mon Amour et Carnet de Campagne, mais ça vous savez par cœur. Fabrice Nicolino vient de faire un bouquin qui s'appelle « C'est l'eau qu'on assassine ». C'est aux éditions Les Liens qui Libèrent. C'est paru le 21 mai 2025. Vous voyez, si à Radio Puzalène, on est à la page, si je puis dire. Et ce livre fait 304 pages, coûte 19 euros. Et il s'intéresse à l'eau du robinet qui a longtemps été un miracle, un grand progrès pour tous. Mais voilà que le signal s'inverse, nous dit-il. Les pollutions cumulées de la chimie de synthèse l'ont transformé en un produit industriel. Tous les spécialistes, tous les distributeurs d'eau savent qu'il n'est plus possible d'arrêter les innombrables molécules en circulation. Ils le savent, dit-il, mais ils le taisent encore, car il n'y a plus guère qu'une solution. Casser le thermomètre, modifier les normes pour faire croire que l'eau est encore de l'eau, or ce n'est pas vrai. Bien au-delà, ce livre montre à quel point l'eau des nappes, des rivières, de la pluie, celle qui pénètre le sol, irrigue l'agriculture, abreuve les golfs et les piscines, fabrique la neige artificielle, refroidit le nucléaire et les data centers, est proprement assassinée. Par qui ? Une vaste coalition décrite par le menu par l'auteur mêle les multinationales de l'eau, les grands ingénieurs d'État et des politiciens indifférents à cette question pourtant vitale. Le tout sur fond de corruption, de renvoi d'ascenseurs et de copinage endogamique, c'est très grave, nous dit-il, parce que nous sommes tous de l'eau. Notre cerveau en contient 80%. Notre corps doit être au-dessus de 50% d'eau. Il faut changer et vite. L'eau ne peut plus être un dépotoir. Elle est notre bien commun, un bien sacré. Ce n'est plus l'heure de parler encore, mais d'agir. Et effectivement, les polluants éternels, tous ces bazars, les microparticules de plastique dont on parlait à propos des mégots, mais ça vient dans l'eau et pour d'autres raisons. Sinon, je vous recommande le numéro 120 du magazine du WWF. Il vient compléter ce que nous disions une dernière fois sur le hérisson. Sur les traces du panda, nous informe sur les résultats d'une opération hérisson lancée par le WWF Danemark. Ce n'est pas encore en ligne, mais bientôt ça le sera. Et les numéros précédents de ce magazine, les traces du panda, c'est téléchargeable en ligne sur le site WWF. Hein. Donc c'est intéressant, ils ont compté tous les hérissons du Danemark. Ils arrivent à, je crois, plus de 15 000. Et ça leur permettra de surveiller si c'est en baisse ou en augmentation suite aux précautions qu'on prend pour protéger ces petites bêtes, tout ce qui est de plus utile. Le magazine La Hulotte, on vous en a déjà parlé. La Hulotte, C'est une petite encyclopédie des bois et des champs qui est dessinée de façon à la fois amusante mais rigoureusement documentée, qui ne s'acquiert que par abonnement, qui fournit 6 numéros semestriels, pas toujours à l'heure. Ça ne coûte que 38 euros pour les 6 numéros. Et ça vient de sortir un numéro qui intéressera les gens de la région de Carlepont, parce que ça nous parle du petit rhinolof ou petit fer à cheval, c'est une chauve-souris. Alors ça décortique la vie de cette chauve-souris, c'est très très intéressant. Et pourquoi Carlepont et les environs? Parce qu'il y a des sites qui sont particulièrement favorables aux chauves-souris dans la région de Carlepont et où les spécialistes des chauves-souris viennent faire des études. Je rappelle que la chauve-souris, ça fait peur, on raconte que ça s'agrippe dans les cheveux, etc. En réalité, c'est là encore un animal qui nous débarrasse des insectes qui ne sont pas utiles pour nous, qui fait du nettoyage dans la nature. C'est comme le hérisson et d'autres bestioles, très utiles. C'est dans la chaîne de la nature. La nature repose sur un équilibre et nous, les hommes, on passe son temps à bousiller cet équilibre. Et on commence à le bousiller, si je puis dire, aussi dans les océans. Et c'est pourquoi, la prochaine fois, nous parlerons de ce qui va se passer sur les rives de la Méditerranée. Le Monde se donne rendez-vous pour sauver le milieu marin du 9 au 13 juin. La troisième conférence des Nations Unies sur l'océan va réunir chefs d'État, scientifiques, ONG, entreprises autour d'un même objectif, enrayer l'effondrement silencieux du plus vaste et sans doute le plus vital écosystème de la planète. Effectivement, l'océan suffoque, température en hausse, acidification galopante, érosion de la biodiversité, invasion plastique, pêche prédatrice. Le système de survie de notre planète qu'est l'océan vacille. C'est pas moi qui le dis, c'est le secrétaire général du futur sommet. Et je vous invite à aller voir sur France 2 le mardi 10 à 20h45 en écho à cette manifestation mondiale Urgence Océan, un sommet pour tout changer, et c'est animé par Hugo Clément et par Léa Salamé, deux journalistes de qualité. J'ai été très bavard, il ne nous reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans 15 jours et tout de suite pour le petit jardin d'Edwige.
Merci Xavier pour toutes ces très très bonnes informations et tout de suite c'est le petit jardin de Radio Pizan. Excellent après-midi.
Bonjour à toutes et à tous. Retrouvez votre émission L'Instant Nature, une émission proposée tous les 15 jours par l'Association pour la sauvegarde de l'environnement Carolie Pontois. Cette émission est animée par Xavier.
Un grand bol d'air pur avec Puzzle FM.
Pour leur émission, les enfants.